Vous écoutez, on lit pour vous.
Le sens de l'orientation est-il inné? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 30 mars 2025 dans La Presse. La capacité à s'orienter dans une ville semble liée à nos expériences. Cela signifie que, contrairement à ce que des études affirment, les femmes n'ont pas un moins bon sens de l'orientation que les hommes. Telle est la conclusion d'un psychologue montréalais qui travaille à l'Université Bond, en Australie. Victor Chinazzi consacre sa carrière à l'étude des différences du sens de l'orientation entre individus. Il y a des différences très importantes d'un individu à l'autre sur le plan des capacités de navigation, explique M. Chinazzi. Tout le monde a le potentiel d'être meilleur, mais certains semblent avoir plus de capacité d'être exceptionnels. Le chercheur de Gold Coast, au sud de Brisbane, cite les travaux d'une psychologue britannique, Eleanor Maguire, du Collège universitaire de Londres, UCL, récemment décédée. Elle a montré que le cerveau des chauffeurs de taxi de Londres changeait au fil de leur apprentissage. Leur hippocampe, qui joue un rôle central dans la mémoire, le repérage dans l'espace et l'apprentissage, devient plus gros. De son côté, M. Chinazzi a montré que l'endroit où quelqu'un grandit affecte la taille de son hippocampe. Les gens qui grandissent dans des environnements plus imprévisibles, comme des campagnes avec beaucoup de routes sinueuses, des cours d'eau et des montagnes, ou alors des villes qui ne suivent pas un plan quadrillé, ont un hippocampe plus gros. Pas de différence entre les sexes. Une autre étude de M. Chinazzi a déboulonné le mythe selon lequel les hommes auraient un meilleur sens de l'orientation que les femmes. Tout est une question de motivation, explique-t-il. J'ai fait un test de navigation dans des villes fictives. Les gens avaient du temps pour apprendre la localisation de certains lieux. Ensuite, on leur demandait de retrouver ces lieux. Les femmes prenaient plus de temps que les hommes à compléter ce test. Mais quand on donnait une récompense financière pour ceux qui retrouvaient les lieux plus vite, la différence entre les sexes disparaissait. Les hommes avaient toujours tendance à aller le plus vite possible, les femmes moins. Pourtant, une étude norvégienne de 2015 avait constaté que les femmes avaient une capacité de navigation supérieure après avoir pris de la testostérone. N'est-ce pas une preuve d'une différence entre sexes? Selon M. Chinazzi, la différence concernait surtout la rotation mentale, c'est-à-dire la capacité à faire tourner mentalement l'image d'un objet en deux ou trois dimensions. Pour la navigation sur les routes, il n'y avait presque pas de différence. Et être meilleur en rotation mentale n'améliore pas beaucoup la capacité de navigation, signale-t-il. En savoir plus, source PNAS, 25 000, nombre de rues que doivent apprendre les chauffeurs de taxi à Londres pour réussir leur examen. C'était Le sens de l'orientation est-il inné? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 30 mars 2025 dans La Presse.
Vivre en français hors des grands centres urbains. Un défi récurrent pour les femmes de la Colombie-Britannique. Un texte de Paul T. Chilolo, paru le 19 mars 2025 dans La Source. Les femmes francophones de la Colombie-Britannique vivant en milieu rural font face à des obstacles spécifiques, notamment concernant l'accès aux services, l'intégration communautaire et les possibilités professionnelles. Isolement et accès limité aux services. L'isolement est un obstacle presque insurmontable pour les femmes francophones vivant dans des régions éloignées. Selon Anna Keava, chargée des communications de l'organisme Réseau Femmes Colombie-Britannique, la première difficulté que rencontrent ces femmes est l'isolement. C'est pourquoi nous essayons d'aller à leur rencontre et de leur permettre d'intégrer un réseau. L'organisation met en place divers programmes pour briser cet isolement, comme la Ressource mobile, qui propose plus de 100 ateliers gratuits, accessibles en ligne ou en région. Pour Lynn Chartier, une francophone qui vit à Nelson depuis 17 ans, les difficultés sont bien réelles. Il y a plusieurs manières d'être une femme francophone à Nelson. Celles qui ont des enfants se regroupent et participent aux activités de l'Association des francophones des Kootenay West, AFKO, mais d'autres restent isolées, notamment celles qui viennent d'ici pour le sport et le style de vie. L'accès aux services en français demeure un enjeu de taille, surtout dans le domaine de la santé. Lynn Chartier souligne les difficultés rencontrées. Vivre la ménopause ou la dépression dans un environnement où les ressources en français sont quasi inexistantes est très difficile. Il faut chercher ces ressources en anglais, et c'est un tout nouveau vocabulaire à apprendre, ce qui complique l'accès aux soins et au soutien. Un marché du travail et des infrastructures peu adapté. Outre l'isolement, l'intégration professionnelle est un autre défi. De nombreuses femmes francophones ont du mal à trouver un emploi correspondant à leurs compétences et où elles peuvent travailler en français. Nous reconnaissons que les ressources disponibles pour les femmes francophones sont insuffisantes, affirme Anna Keaiva. Nous essayons d'offrir des programmes pour les accompagner, mais cela dépend beaucoup des financements gouvernementaux. Le manque d'infrastructures francophones est aussi un frein à leur développement personnel et professionnel. Il est très difficile d'avoir accès à l'éducation en français en région. Si on veut étudier en français, c'est 100% en ligne, ce qui limite les possibilités, explique Lynn Chartier. Les services de garde sont rares et coûteux, ce qui complique encore plus la conciliation travail-famille. Le rôle essentiel des organismes communautaires. Face à ces difficultés, des organismes comme Réseau Femmes Colombie-Britannique jouent un rôle essentiel. Avec 19 regroupements à travers la province, l'organisme cherche à créer des espaces d'échange et de soutien pour les femmes francophones. La moitié de nos regroupements évolue en région, mais nous avons du mal à maintenir certains groupes actifs faute de ressources et de participantes, reconnaît Anna Keaiva. Un exemple édifiant est celui de Prince George, où un regroupement dynamique de femmes arrive à rassembler plus de participantes que certains groupes de Vancouver. Nous aimerions relancer des regroupements dans d'autres régions, comme à Nelson, où l'activité est actuellement en pause, ajoute-t-elle. Des solutions pour un avenir meilleur. Pour améliorer la situation des femmes francophones en région, plusieurs pistes sont envisagées. Lynn Chartier insiste sur l'importance de créer plus de possibilités de rencontres et d'activités financées. Il faudrait offrir davantage de bourses pour organiser des activités et des rencontres afin de renforcer les liens communautaires. L'accès aux services de soutien, plus particulièrement pour les femmes victimes de violences, est aussi un enjeu crucial. Si une femme francophone est battue ici, je ne sais pas quels services en français sont disponibles localement. Peut-être qu'elle pourrait appeler l'organisme informel, mais il n'y a pas de ressources claires, regrette-t-elle. De son côté, Réseau Femmes promet d'accroître ses efforts pour offrir des programmes adaptés, mais l'organisme demeure dépendant des politiques gouvernementales. Nous faisons tout notre possible pour accompagner ces femmes, mais sans soutien financier accru, il est difficile d'étendre nos services, conclut Anna Keaiva. Bien que la communauté francophone en région rurale continue encore de maintenir sa vitalité, elle reste confrontée à des obstacles importants. Une meilleure reconnaissance des besoins de ces femmes et un soutien accru des institutions publiques permettraient de renforcer leur inclusion et leur bien-être au sein de la population britanno-colombienne. C'était « Vivre en français hors des grands centres urbains, un défi récurrent pour les femmes de la Colombie-Britannique », un texte de Paul T. Chilolo, paru le 19 mars 2025 dans La Source.
Qui s'oppose encore à la mondialisation? Un texte de Magdalene Boutros, paru le 14 avril 2025 dans Le Devoir. Depuis que Donald Trump a imposé des tarifs douaniers à des partenaires commerciaux des États-Unis, un discours unanime en faveur de la libéralisation des échanges économiques a émergé. Cet engouement tous azimuts pour la mondialisation économique contraste avec la forte opposition ayant parfois accompagné la négociation d'accords commerciaux internationaux. On n'a qu'à se rappeler les immenses manifestations contre la zone de libre-échange des Amériques lors du sommet des Amériques à Québec en 2001, ou encore les émeutes ayant éclaté à Seattle en 1999 à l'occasion d'une conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Pour faire le point sur la question, Le Devoir s'est entretenu avec Raphaël Canette, professeur de sociologie au Cégep du Vieux-Montréal, membre du Comité international du Forum social mondial et auteur de plusieurs ouvrages sur l'altermondialisme. En réaction au protectionnisme de Trump, une voix unie en faveur de la libéralisation des échanges a émergé. Comment percevez-vous ce phénomène? En ce moment, on est en réaction à l'attaque du gouvernement américain. C'est pour ça qu'on entend ce consensus. Mais c'est aussi parce que le néolibéralisme est la voie qui domine depuis 20 ou 30 ans. On est dans la même recette. On est attaqué et, en gros, on dit que c'est le libre-échange ou la mort. Ça fait plusieurs années que les voix plus dissidentes, comme les voix altermondialistes, ont du mal à percer dans le discours politique et dans les médias. Est-il possible de s'opposer à la brutalité de l'approche trumpienne et à ses dérives, tout en ayant un discours critique face à la mondialisation économique? C'est la voie de passage qu'il faut trouver. Trump a un discours qui rejoint des insatisfactions populaires. C'est vrai que des Américains ont été laissés pour compte par la mondialisation avec la désindustrialisation du pays dans les années 1980. Il y a eu un accroissement des inégalités. Ce sont les effets pervers de la mondialisation que le mouvement altermondialiste décrit depuis 30 ans. L'élite trumpienne a adopté ce discours pour gagner des voix. Depuis le milieu des années 2010, les mouvements populistes ont récupéré le discours critique que l'altermondialisme développait à l'égard de la mondialisation et de ses effets sur les gens. Mais ils n'ont pas repris les solutions. Aux États-Unis, la frustration des Américains est instrumentalisée. Vont-ils vraiment réformer le système pour que ça aille vers plus d'égalité et de justice? Je ne pense pas. On est en présence d'une élite qui essaie de remplacer une autre élite en utilisant la population comme faire-valoir. Quelles sont les solutions de rechange qui peuvent être offertes à la mondialisation économique et à l'approche trumpienne? L'idée de l'altermondialisme, c'est de construire un monde différent, plus juste, plus solidaire et plus durable. C'est de garder le tissu industriel le plus possible dans le pays. C'est de miser sur des petites et moyennes entreprises plutôt que sur de grandes multinationales et donc d'avoir un tissu économique plus local. C'est un peu le discours qu'on a eu pendant la pandémie quand, par la force des choses, les échanges internationaux ont été bloqués. Il y a eu un appel à réancrer et à réenraciner l'économie dans le territoire national où les populations vivent. c'est aussi de revenir à une forme de souveraineté économique pour que les États puissent mettre en place des réglementations ou des législations qui protègent certains secteurs particuliers, comme l'alimentation et les politiques culturelles, pour les mettre à l'abri de la concurrence internationale. Est-il plus difficile aujourd'hui d'imaginer un autre modèle en raison de la forte interdépendance de nos économies qui s'est développée dans les dernières décennies? Ça fait 45 ans qu'on est dans la mondialisation, donc on ne peut pas tout détricoter du jour au lendemain. En plus, on a perdu plein d'expertises. Dans les années 1980, par exemple, Montréal était un lieu important pour l'industrie textile. Mais on ne pourrait pas demain se remettre à produire nos vêtements à Montréal. Ça prendrait plus de temps. En ce moment, il y a un événement traumatisant, l'imposition de tarifs qui vient ébranler l'économie mondialisée. Ça peut être une occasion de sortir de ce système-là et de redécouvrir la pertinence de développer une économie plus locale et plus en phase avec les limites environnementales. L'altermondialisme semble avoir vécu son âge d'or au tournant des années 2000. Où en est ce mouvement aujourd'hui? Les grosses mobilisations de masse étaient vraiment à cette époque, mais ensuite, il y a eu la crise économique de 2008 et les mouvements Occupy, des indignés et le printemps arabe. Le système craquait, alors il y avait une occasion de se faire entendre. Mais les gouvernements n'ont repris aucune des propositions qui étaient mises en avant, notamment pour réguler la finance. Depuis, le rapport de force en faveur de l'altermondialisme est devenu moins grand. Il y a aussi moins de gens qui participent aux forums sociaux mondiaux. Mais il faut garder espoir. Aujourd'hui, le système est ébranlé. Il va toujours être ébranlé puisqu'il fonctionne à l'épuisement des ressources. C'est un peu la conviction du mouvement altermondialiste. On a des ressources limitées, on ne peut pas accroître les inégalités tout le temps, donc les gens vont se révolter. Et quand ils se révoltent, il faut leur proposer autre chose. C'était « Qui s'oppose encore à la mondialisation ?» un texte de Magdalene Boutros, paru le 14 avril 2025 dans Le Devoir.
Dominique Demers, « Ces liens qui nous construisent », un texte de Vicky Sanfasson, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires. Que signifie apprivoiser? C'est une chose trop souvent oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Mathilde est en perte de repères. À 40 ans, elle s'étourdit dans son travail de chroniqueuse et d'animatrice littéraire, accumulant les contrats pour oublier le vide qui l'attend à l'extérieur de l'univers feutré des romans qu'elle connaît si bien. Fragilisée par des événements qui ont fissuré durablement ses fondations, elle décide, sur un coup de tête, de faire œuvre utile en offrant du temps comme aidante bénévole auprès d'une vieille dame ayant fait une vilaine chute. Une occasion en or, pense-t-elle, pour tisser des liens sans trop d'investissement. Dans un luxueux condo surplombant la ville, Mathilde rencontre Jacqueline. Une dame longue et mince, au port altier, compensant la vulnérabilité de son état par une attitude d'une dignité exacerbée, enrobée de propos cinglants. À l'opposé de la douceur que l'on associe habituellement aux personnes âgées, Jacqueline est faite de cette étoffe rugueuse qui ne s'assouplit qu'avec le temps et les efforts. Malgré son envie pressante de claquer la porte et de laisser cette vieille dame à son malheur, quelque chose d'intangible la retient. De la rencontre de ces deux solitudes, le vide de l'une se reconnaissant dans celui de l'autre, une amitié improbable mais salutaire se tisse doucement entre ces deux femmes qui s'apprivoisent malgré les générations et les réalités qui les séparent. une amitié d'autant plus précieuse qu'elle ne sera que de courte durée. Le temps de Jacqueline est compté, et un projet ambitieux doit se conclure avant qu'elle ne puisse apposer le point final à son existence. Mathilde aura-t-elle la force de l'accompagner jusqu'au bout? Elle fouilla mon regard en quête de mystérieuses confirmations. « J'ai besoin de vous, Mathilde. » C'est en discutant avec un ami médecin spécialisé en soins palliatifs et en réfléchissant à son propre parcours que Dominique Demers a commencé à s'intéresser de près à la réalité des proches aidants et à jeter les bases de son nouveau roman « Debout dans l'orage » publié aux éditions Québec-Amérique. L'autrice, qui est arrivée à l'âge où il n'est pas rare d'accompagner ses propres parents, a saisi l'opportunité que lui offrait ce roman pour vivre ce moment dont la vie l'a privée, sa mère étant décédée lorsqu'elle était très jeune et son père emporté subitement sans qu'un dernier au revoir soit possible. Pour moi, la littérature est une façon de tricher avec la vie en me permettant d'en vivre plusieurs et de choisir des situations que je trouve enrichissantes, nourrissantes et ébranlantes. Mais comment incarner toutes les nuances de cet ultime accompagnement dans un roman d'un peu plus de 300 pages? L'autrice est allée à la rencontre de ses personnages pour le découvrir. Si son intention initiale était de créer deux personnages de femmes fortes, sa première rencontre avec Mathilde et Jacqueline ne fut pas sans défi, chacune la surprenant au fil de l'écriture avec ses projets, ses ambitions et ses secrets. Dominique Demers n'a pas le choix. Tout comme le lecteur qui établit un pacte de lecture avec l'écrivain, elle doit lâcher prise et se laisser porter par l'histoire. Il y avait quelque chose comme un saut en parachute à commencer à écrire ainsi, sans filet. Mais je ne voyais pas d'autre manière de le faire. C'est comme si je devais m'investir dans ces personnages, me glisser sous leur peau, puis les laisser se rencontrer pour mieux les comprendre. C'est ça qui est magique avec l'écriture. Sentir qu'un univers nous précède, et que l'on a la chance inouïe de l'explorer. Ce qu'elle n'avait peut-être pas anticipé dans son plan d'écriture, c'est cet ouvrage que Jacqueline nourrit l'ambition de finaliser, un essai sur la résilience chez les animaux et leur relation à l'art. Une triade de sujets fascinants, mais d'une intimidante complexité. Tout comme Mathilde, qui se voit proposer de chapeauter ce projet et s'y oppose d'emblée, avant d'accepter, l'autrice a d'abord hésité à suivre cette piste qu'elle jugeait trop ambitieuse. C'est en écoutant son intuition, cette petite voix intérieure qui l'encourageait à aller jusqu'au bout de l'idée avant de la rejeter définitivement, qu'elle décide de se lancer. Heureusement, la recherche n'est pas une corvée pour celle qui a passé plus d'une quinzaine d'années à travailler comme journaliste pour l'actualité et qui a toujours soif d'élargir ses horizons de connaissances. Après des heures de lecture passionnantes et de rencontres formatrices avec des spécialistes généreux qui ont su l'aiguiller, l'autrice a pu vivre ce double bonheur qui est d'apprendre avec ce désir de découvrir les contours de ses personnages par la recherche. La clé de l'énigme est cette phrase apposée au mur de la chambre de Jacqueline : transformer la tragédie en triomphe. Tout dans ce roman conduit vers la résilience, cette capacité à raccommoder les déchirures et à trouver en soi ce que Dominique Demers appelle ce petit ressort qui permet de nous propulser au-delà d'un événement traumatique ou de l'utiliser comme tremplin pour se reconstruire. L'art se révèle être un outil puissant de transformation, offrant un espace libre et créatif pour dire, exister, reproduire et recréer afin d'apprivoiser la souffrance et ainsi faire naître la beauté. Quand on est assez fort, l'art peut nous aider à créer de la beauté, non pas pour fuir la laideur, mais comme un acte de résistance. À travers la création, on invite la beauté à retrouver la place centrale qu'elle mérite dans notre société. Pour Jacqueline, qui a une sensibilité innée pour la peinture, autant que pour Mathilde, qui est une passeuse de beauté et de vérité par son travail de chroniqueuse littéraire, l'art peut devenir cet outil puissant qui permet de créer une émotion plus grande que nature en connectant avec ceux et celles qui l'expérimentent. Plus encore que l'art, l'attachement joue un rôle central dans ce processus de reconstruction. Debout dans l'orage, c'est avant tout l'histoire d'une relation profonde qui se bâtit entre deux femmes qui osent sortir de leur zone de confort et se dévoiler dans leur vulnérabilité pour vivre leur amitié. Pour Jacqueline, qui s'est isolée du monde et a toujours traité ses relations comme des exceptions à la règle, il s'agit de faire tomber ses barrières et d'inviter quelqu'un dans son quotidien en lui accordant sa confiance. Pour Mathilde, qui se noie dans sa peine, cette amitié devient un moyen de se réorienter en lui permettant de mettre de côté les événements du passé pour ne garder que les leçons nécessaires pour avancer. Je crois qu'en fin de compte, tous mes romans visent à raviver notre capacité d'émerveillement. Si, en fermant ce livre, le lecteur se sent un peu plus convaincu que la vie peut encore nous offrir de l'émerveillement, que ce soit à travers les relations humaines ou l'art, et qu'il a tissé des liens d'empathie avec d'autres humains, même s'ils sont de papier, je ne l'aurais pas écrit pour rien. C'est peut-être la plus belle et la plus grande leçon que nous offre ce roman de Dominique de Mers. S'offrir la chance de tomber en amitié, malgré les incertitudes et les larmes qui risquent de couler lorsqu'on se laisse apprivoiser. Comme Mathilde et Jacqueline, trouver le courage de tendre la main pour soutenir celle de l'autre malgré la pluie qui s'abat. Ce n'est qu'en pratiquant ce geste de connexion sincère que nous en ressortirons collectivement grandis. C'était Dominique de Mers, « Ces liens qui nous construisent », un texte de Vicky Sans Façon, paru le 7 avril 2025 dans les libraires.